Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste ce soir, l'écrivain Laird Hunt.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Laird Hunt.
C'est une marche des femmes, une marche qui converge vers un point aveugle, le lynchage de deux jeunes hommes noirs dans la ville de Marvel, États-Unis d'Amérique, 1930. Cette route vers l'enfer, elles sont au moins deux à la descendre, Ottilie et Calla Destry. Il fait chaud, la première veut aller au spectacle, la seconde veut tenter l'impossible et arrêter l'horreur. Vous êtes avec elle, Laird Hunt, dans ce dernier roman traduit par Anne Nortissu, vous êtes avec elle dans un balancier permanent, entre les diables et les anges, entre le bien et le mal, entre le présent et les souvenirs, et tout ça souvent avec une lune dans le cœur. Ce roman semble écrit dans l'air suffocant du Strange Fruit, interprété par Billie Holiday, soleil pourrissant et arbre qui tombe. Bonsoir à vous, Laird Hunt.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. La route de nuit est parue aux éditions Actes Sud, vous êtes aussi l'auteur dans la traduction française, toujours chez Actes Sud, des Bonnes gens et de Never Home. Et puis vous enseignez l'écriture à Brown University. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de ne pas me faire galérer en anglais pendant une heure et de faire cet entretien en français dans la langue de Molière avec vous?
Ça va être un grand plaisir. Merci.
Et comment ça se fait que vous parlez si bien le français?
Ben, je suis francophile confirmé. J'adore la France, la littérature française et j'ai passé quelques années en France.
Vous avez étudié la littérature française?
C'est ça, pas avec grand succès, il faut le dire. Mais j'ai passé un peu de temps à Paris 4. Je faisais une licence en lettres modernes pendant les années 90. C'était très, très intéressant. Mais j'étais aussi en train de devenir, j'espérais, écrivain. Et les deux choses n'allaient pas très bien ensemble, hélas.
Avant qu'on vous demande peut-être les auteurs, on lit souvent que Jean Genet avait à ce moment-là votre intérêt, votre préférence, ou encore Flaubert, des auteurs de cette trempe. Mais dans un entretien, j'ai rarement l'habitude de citer ça, mais en même temps, c'est tellement intéressant de dire « j'avais envie d'être écrivain français, ça a l'air vraiment super bien d'être écrivain français ». C'est quoi dans votre tête être un écrivain français?
Je voulais devenir Georges Perec, à 100%. Pour moi, c'est le chef, le top et l'impossible aussi. Grande montagne que je ne pouvais pas arriver au sommet.
Mais ça recouvre quoi pour vous? Une façon d'écrire, mais aussi une façon de s'inscrire dans la société?
Une façon de l'être, d'être, je ne sais pas. Pour être écrivain en France, je ne sais pas, j'avais une image tout à fait romantique. C'est sûr, j'avais 20 quelque chose. J'étais pas très, très âgé à l'époque et je voyais, je ne sais pas, je reniflais un peu ce monde mystérieux des écrivains confirmés, établis, qui avaient leurs livres dans les vitrines de, je ne sais pas, le Divan, la Une à l'époque.
Qui sont des librairies parisiennes.
Oui, qui ont changé d'endroit entre temps. Pour moi, c'était quelque chose, une façon d'être, une façon de faire connaissance avec un monde un peu plus intéressant que le mien.
Et le vôtre, qui était lequel à cette époque-là?
Bon, j'étais jeune étudiant, entre guillemets, il faut le dire, mais qui avait un esprit assez voyageur. Je voyageais pas mal. J'avais passé ma jeunesse entre une ferme en Indiana et Hong Kong, où habite mon père depuis maintenant 45 ans. Et avant ça, j'ai passé du temps aux Pays-Bas, à Londres, J'étais un an et demi au Japon, donc je voyageais pas mal. Et j'ai vu à chaque étape, il me semblait que cette chose d'être écrivain était quelque chose qui m'intéressait, qui me tentait. C'était, je ne sais pas, oui, ça représentait quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir, mais que je sentais un peu.
Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui se comparait avec l'idée qu'on peut se faire d'un auteur américain dont on dit qu'elle est, cette idée-là, très différente de l'auteur français ?
En fait, je connaissais pas, à cette époque-là, je connaissais pas la littérature américaine, à vrai dire. Bon, j'avais lu, c'est vrai, dans la maison de ma grand-mère, il y avait des livres de Faulkner, de Hemingway, tout ça, mais pour moi, c'était des livres, c'était pas des, je voyais pas les personnes derrière. C'était que des livres, et je les aimais beaucoup. Mais c'était une fois arrivé en France que je me suis dit, mais il y a des écrivains. C'est pas que des livres, il y a des écrivains aussi.
Des femmes et des hommes vivants derrière.
C'est ça, des femmes et des hommes, c'est sûr.
Quand on arrive dans votre livre, La route de nuit, on y arrive presque sans préparation. On monte nous aussi, et on prend la route avec les personnages, si bien que ces personnages débarquent. On écoute à ce propos Gilles Deleuze.
L'apparition d'un personnage, complètement, je ne vois pas d'autre mot, complètement paumé, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas comment il s'appelle, qui est étranger à tout, qui est le pur déterritorialisé, qui se balade sur sa ligne de fuite sans rien comprendre à rien, qui s'arrête, qui, quand il n'est pas sur sa ligne de fuite, entre en pure et simple catatonie. Vous voyez ce qu'on appelle en psychiatrie la catatonie. Mais c'est ça l'acte de baptême du roman. C'est comme ça, si on devait définir le roman. Ben je dirais, le roman apparaît à partir du moment où surgit un type de personnage. Et si là-dessus on me dit, ah, tu définis le roman par des personnages, non, tu sais pas que c'est plus comme ça, que c'est le signifiant qui compte, je rigole. Le roman apparaît lorsqu'il y a un type de personnage qui ne sait absolument pas ce, ni son nom, ni ce qu'il est en train de faire. Complètement abruti, complètement perdu. Complètement. Il est là. Et il regarde. Il regarde quoi ? Il sait même pas. On vient lui taper sur l'épaule.
Les images sont en noir et blanc. On voit des étudiantes et des étudiants qui sont comme ça agglutinés autour de Gilles Deleuze sur une vidéo YouTube. 1975-1976, on est à Vincennes et donc Gilles Deleuze parle de littérature. Moi, je parlais d'apparition dans la lecture, de la manière dont je débarque et les personnages débarquent dans ma lecture. Il parle, lui, de la naissance du roman et de la manière dont, en fait, il s'écrit à partir de l'apparition des personnages. Qu'en est-il pour, on va dire, les deux personnages féminins principaux de votre roman, Laird Hunt? Comment ont-elles débarqué?
Il faut dire d'abord que c'est la première fois que j'entends la voix de Gilles Deleuze et je trouve ça très émouvant. c'est assez magnifique et une façon de rigoler aussi. Super. C'est pour moi, pour ces deux femmes, dans ce livre, c'était une grande découverte pour moi et pour les femmes. Je les suivais dans une certaine manière. Je connaissais pas la fin, je connaissais pas le but. J'écoutais, je suivais, je regardais leur progrès. Et donc, c'était une acculturation d'une certaine manière pour les personnages et pour moi aussi dans ce roman. Et assez affreuse, finalement, parce que c'est une nuit d'une violence inouïe.
Et donc, quand vous dites assez affreux, cette acculturation, ça veut dire que le temps d'écriture a été un temps douloureux?
Mais bien sûr, oui. Oui, ce livre, comme les bonnes gens que j'ai écrit, un de mes livres précédents, qui parle de l'esclavage, c'était des expériences assez déchirantes. Et j'étais jamais à l'aise, jamais confortable. Mais bon, c'est pas ça. On n'écrit pas des livres pour être à l'aise. C'est pour changer quelque chose. C'est pas toujours pour aller vers la douleur. Mais quand on parle de l'histoire américaine, il faut parler de la douleur et de la violence aussi, il me semble. Enfin, c'est pas que le rêve de Great Gatsby et tout ça. la beauté, c'est pas toujours la beauté, même la beauté est un peu compliquée.
Et puis l'inconfort, l'Earth Hunt, c'est aussi une puissance parfois de transformation. Est-ce que des mois d'écriture ou des années, je ne sais pas à combien vous a pris ce livre-là, aussi inconfortable fussent-elles, vous ont mené vers un déplacement profond?
Je ne sais pas, je pense que c'est en cours, c'est trop tôt pour dire ça. Il y a un autre livre après celui-ci qui est terminé, mais c'est assez récent, qui parle des sorcières. Donc je continue à écrire des livres où les femmes sont au centre, et je parle de l'histoire américaine, mais là je plonge dans le XVIIe siècle. Mais j'ai l'impression de continuer à plonger. C'est pas encore terminé. Il y a encore un livre à écrire, je pense. Et puis après, je peux dire que si, j'ai été transformé.
Et vous vivez ça comme un cycle, ces romans où les femmes sont au cœur des intrigues ou des fictions, des textes que vous écrivez?
Oui, c'est un seul volume, à mon avis. Ça commence avec Les Bonnes Gens, puis Never Home, et puis justement La Route du Nid, et puis ce livre qui parle de sorcières.
Mais décidé comme tel, comme un cycle là-dessus?
En anglais, je l'appelle The Dark America Quartet. Je ne sais pas ce que ça donnerait en anglais, mais c'est-à-dire que j'ai en tête l'idée que ces livres vont ensemble.
Dans l'archive, Gilles Deleuze présentait le débarquement comme ça des personnages déterritorialisés, un peu perdus, on ne sait pas très bien, comme ça, on les voit dans un coin de la salle en train de faire des gestes répétitifs et illisibles. Comment est-ce qu'elles... Vous dites, je les ai suivies, finalement, je les ai laissées faire, ces femmes, je les ai observées. Qu'est-ce que vous ne compreniez pas au départ dans les personnages?
Ben, presque tout. En fait, c'était des grands mystères. Ottilie était pas... En fait, la voix d'Ottilie était, dans une certaine manière, un cadeau. Parce que j'ai écouté une émission de radio qui parlait de ces événements, les vrais événements.
Vous pouvez les replacer comme ça, en quelques secondes, les vrais événements,
c'est-à-dire le lynchage de deux jeunes hommes noirs par une foule de 10 milliers de personnes en Indiana. C'était le 7 août 1930. Et c'était cet événement a donné... Il y avait beaucoup de choses qui sont parties de cet événement, mais quelque chose qui est très célèbre, c'est une photo affreuse, justement, du lynchage avec des... donc, il y a deux jeunes gens noirs qui sont morts et qui pendent d'un arbre. Et il y a des blancs tout autour qui sourient. Et cette photo a été circulée dans les États-Unis entiers. Et un poète à New York, Abel Mirapol, a trouvé la photo et il a écrit un poème qui s'appelle Strange Fruit, dont Billie Holiday a fait une grande chanson. Donc ça, c'est un peu l'événement. Et ce qui était curieux pour moi, c'est que je connaissais bien sûr la photo et je connaissais la chanson Strange Fruit, mais je savais pas que c'était juste à côté de la ferme familiale, à moins d'une heure de chez moi. Et dans cette émission, très intéressante pour moi, il y avait la voix d'une vieille femme. Elle avait, je ne sais pas, 90 ans. C'était la fin de sa vie. Mais quand elle était jeune, elle est allée ce soir-là à Marion, Indiana, pour assister. Et quand elle parle de ça, elle ne dit pas que j'ai honte d'avoir fait ça. Elle dit, c'est dommage que j'étais trop curieuse. C'était la curiosité qui l'a perturbée.
On va écouter un petit bout de cette émission.
I can never forget the night when they put me in this jail.
Je ne pourrai jamais oublier cette nuit. Quand ils m'ont mis dans cette prison, j'y étais déjà depuis 3 heures. La lumière du jour a baissé. Plusieurs groupes de personnes se rassemblaient, de 8 à 10 personnes, brandissant leurs poings vers la prison. et la foule grossissait, toute la journée. Je suis descendue de mon bureau et Randall m'a dit « Où est-ce que tu vas, ma petite ?» Je lui ai dit « Je rentre chez moi, j'ai fini ma journée de travail. » Il a dit « Tu ferais mieux de rester ici. » J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas au courant. » Il m'a dit « Ben, ils vont lyncher des nègres. » Je lui réponds « Tu plaisantes, Randall. » Il a dit « Tu ferais mieux de rester ici, il va y avoir du sport. » Alors on a pris la voiture et on est allé à Marion, sur la place, juste par curiosité.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Laird Hunt.
You know they killed my sister and my brother. And the whole world let them peoples go down their frame. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother.
J'arrive presque pas à parler dessus, en fait. I Never Go Back to Alabama, JB Le Noir, juste après ce court extrait, donc peut-être de la même émission, j'imagine, Laird Hunt, dont vous parliez à l'instant. En fait, il y a cette femme, et puis il y a juste avant la voix de James Cameron, qui avait 16 ans en 1930, et qui dit qu'évidemment, il n'oublierait jamais cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est ?
Alors, oui. James Cameron était quelqu'un de très important dans l'histoire américaine du XXe siècle. Et c'est en fait, il devait avoir 3 pendus cette nuit. Le lynchage était prévu pour 3. Et justement, James Cameron était le 3e. Mais après les 2 premiers, après cette photo et les sourires et la fête, la foule a décidé de le laisser en vie. Il avait 16 ans, c'était vraiment un garçon. Il n'avait rien fait. Et on l'a mis en prison, en fait. Il a passé quelques années en prison pour quelque chose qui dit, et je le crois à 100%, qu'il n'a pas fait. Le soi-disant crime. Et il a laissé derrière lui 2 choses très importantes. Il a laissé un musée de l'histoire raciale, de la violence raciale aux États-Unis, et puis aussi un livre qui s'appelle « A Time of Terror ». Donc c'est une mémoire qui parle des événements. Et évidemment, j'ai trouvé ce livre, c'est pas très facile à trouver, ce qui est dommage. Et je l'ai lu 2 ou 3 fois. Vraiment, il évoque cette nuit avec une force, une puissance incroyable. Donc, c'est le survivant. Et c'est celui qui a témoigné des événements. C'est quelqu'un qui était là cette nuit, James Cameron.
C'est intéressant que vous souligniez avec tant de force, Laird Hunt, la puissance de son témoignage, puisque je disais en introduction que c'est un texte qui, à mon sens, ne cesse de balancer entre plein de pôles différents. On y viendra sur la question de la morale, du bien et du mal, de l'enfer, du paradis, évidemment la question religieuse, mais aussi, qu'est-ce que c'est que de vivre le présent et de voir mélanger à ce présent sans cesse des bribes de mémoire, des bribes de songes, voire des bribes d'hallucinations quand il fait trop chaud. Comment est-ce que vous avez trouvé justement ce chemin pour l'écriture où on ne serait jamais que dans la pure rationalité, si jamais elle existe, de l'existence et des faits tels qu'ils arrivent?
Eh bien, ça a toujours été un peu comme ça pour moi, avec les livres qui parlent de l'histoire. C'est toujours quelque chose qui a beaucoup de strates. Et ça a toujours été une excavation pour moi. Je creuse quand j'écris. Et quand on creuse, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Parce que on peut pas voir à travers la terre des mots, la terre de la mémoire. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, la découverte, même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas découvrir. Mais bon, avec une histoire comme ça, on sait un peu, on connaît un peu ce qu'on va découvrir. Et ça ne va pas être joli. Mais c'est une nuit dans un état en Indiana, et il y a cet événement, ce centre, ce vortex de violence au centre de l'histoire. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a la vie qui continue autour. Et je voulais aussi évoquer ça. Donc il y a des moments d'humour. Il y a des moments de beauté même. Il y a des moments où on ricane, où on raconte des blagues. Mais puis il y a toujours la violence qui revient. Et qui touche, et qui heurte, et qui frappe. Et donc c'est très en mouvement pour moi. Quand je réfléchis à ce livre, tout est en mouvement. Pas uniquement les femmes au centre du roman.
Et surtout pas uniquement tout droit. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de route qui va vers le point aveugle que je décrivais, mais plutôt la figure que vous faites avec votre doigt, c'est-à-dire plutôt un vortex, c'est quelque chose qui tourne. Mais pour autant, c'est un point qui reste aveugle ou qui reste le fond du puits. On entendra tout à l'heure un extrait, mais je trouve que vraiment ce conte qui existe dans plein de traditions différentes où la lune se reflète dans le puits et on se penche au-dessus du puits pour voir la lune, alors qu'en fait elle est là-haut. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est comme si vous vous penchiez pour voir le lynchage, mais vous n'avez que le reflet du lynchage, vous n'avez pas la lune, quoi.
Oui, en fait, là, au fond du puits, c'est le texte de James Cameron qu'on voit. Lui, il était là, il a décrit, et je me suis dit, bon, j'ai essayé de d'écrire le lynchage, mais c'était faux, c'était pas juste, c'était pas... Je ne sais pas, je ne l'ai pas saisi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ça. James Cameron l'a fait, la photo affreuse documente la chose. Donc le roman allait être autre chose. Ça ne pouvait pas être la chose elle-même. Et donc, oui, je l'ai laissé de côté.
Du coup, ça devient plein de choses. Ça devient, par exemple, que c'est un roman qui s'ouvre sur une femme qui est une sorte de proie facile pour son patron libidineux, et puis son mari qui est fasciné par une grosse truie. Et dans un premier temps, en fait, avant qu'on ne se prenne la claque de la direction vers ce point aveugle du lynchage, c'est la condition de la femme que vous regardez, Laird Hunt.
Dans toute sa complexité, j'espère. C'est le but, en fait. C'est ce que je veux faire. Je veux rendre toute la complexité des êtres humains sur la page. Et Audie Lee, c'est pas juste
une affreuse blanche qui va au lynchage.
Oui, c'est ça exactement. Et quand j'écris un personnage, je veux démontrer que c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a eu un passé et qui va avoir un avenir. Et entre-temps, on la regarde, on la rencontre. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je découvre ce personnage au fur et à mesure qu'elle parle, qu'elle agit, qu'elle prend des décisions, qu'elle prend des décisions assez affreuses, finalement. Parce que Audie Lee, c'est quelqu'un, là, on est loin de ce personnage dans l'émission de radio, parce que je connais rien de cette femme-là. Mais ce personnage, ce Audie Lee, c'est quelqu'un qui va faire du mal, et elle a aussi fait du bien, et elle a aussi été une victime, pas une victime comme Calla, pas une victime comme les deux jeunes gens pendus et l'autre qui a été laissé de côté. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, on regarde cette femme et il faut avouer que oui, justement, ça, son patron, c'est quelqu'un de qui saute sur elle à plusieurs fois, à même fois. Et c'est quelqu'un qui a de, je ne sais pas, beaucoup de facettes.
Et vous disiez tout à l'heure, finalement, je ne les comprenais pas, ces deux personnages femmes, personnages principaux de mon roman. Alors, qu'est-ce que vous ne compreniez pas? Pour Ottilie, c'est pourquoi elle y va? Pourquoi elle se rend?
Je ne sais pas, oui. Oui, je voulais savoir, c'est vrai. Je voulais devenir, je voulais découvrir, mais non, je peux pas dire pourquoi elle y est allée. Je peux dire qu'elle a un peu fait pour ça, un peu pour cette autre raison, mais je ne sais pas, en fait. Et je suis d'accord avec ça. C'est OK. C'est comme ça dans la vie, finalement. Hein? On peut connaître les gens sans connaître tout. Sans tout connaître.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas du deuxième personnage que l'on rencontre, qui est appartenant à un camp opposé, on va dire, si on tranchait les choses de cette manière-là, alors que votre roman ne le fait pas. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette jeune femme?
Carla Destry, c'est une très jeune femme. Elle a la même âge, en fait, que James Cameron à l'époque, et je l'ai fait exprès. Elle a 16 ans, donc une fille, oui, une grande fille, une jeune femme, qui est noire, métisse, et qui vit dans cette ville de Marion, Indiana. Dans le roman, ça s'appelle Marvel, c'est pas Marion. Et elle est là depuis quelque temps, elle a un passé compliqué. Et elle a perdu ses parents, elle vit pas avec la famille, c'est les gens qui l'accueillent, et c'est dans le quartier noir. Comme à Marion, Indiana, dans le roman Marvel, Indiana, il y a un quartier noir dans cette petite ville. Et c'était souvent comme ça dans les petites villes en Indiana. Et c'est quelqu'un qui a de l'esprit, qui a des rêves, qui a un désir de faire autre chose, mais c'est pas un personnage de Stendhal. Elle va pas conquérir le monde ou essayer de conquérir le monde, avoir les espoirs comme ça, mais elle veut changer un peu sa vie. Elle a trouvé une façon de le faire avec un copain, un petit ami, un peu plus âgé, qu'on va rencontrer dans le roman. Mais le roman commence avec un rendez-vous raté. Elle va au rendez-vous et le petit ami n'est pas là. Et puis on commence à la suivre.
Elle, qu'est-ce que vous ne comprenez pas chez elle?
Sa force, sa force de vie. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas fait comme ça. C'est quelqu'un qui a une puissance qui me perturbe et m'intéresse beaucoup.
Quand on écrit des personnages comme ça, il n'y a pas un tout petit peu de nous qui est comme ça?
Oh, c'est possible. Une fois, il y a longtemps, quand j'étais jeune écrivain à Paris.
La situation de l'historien et celle du romancier historique, telle que je la comprends, semble presque identique. Et il y a pourtant une assez grande différence. Et je ne fais pas fi des immenses difficultés qui sont celles de l'historien. Le grand historien est un des grands phénomènes intellectuels à toutes les époques de l'histoire. Les règles de son jeu, pourtant, sont très différentes de celles du romancier. L'historien, comme le romancier qui veut faire œuvre d'historien, doit tâcher naturellement de tout savoir sur le personnage dont il parle. Et il a devant lui tout un attirail de faits qu'il nous présente, qu'il doit nous présenter avec lucidité, s'il est très grand historien, parmi lesquels il lui arrive souvent de nous laisser choisir. Quelle plausibilité nous paraît finalement la plus acceptable? Il n'est pas obligé, je dirais même que les règles du jeu lui interdisent, d'entrer à l'intérieur de son personnage pour le recréer. Le romancier, au contraire, doit refondre en quelque sorte ces documents figés, que sont les documents historiques, et les faire passer au feu de sa propre émotion, de sa propre personnalité, et leur donne et leur rend cette fluidité qu'ils avaient au moment où ils étaient simplement de la vie vécue.
J'adore la manière dont elle dit « au feu ». Marguerite Yourcenar, 1971, dans la série d'entretiens « Entretien avec », ça me fait penser à un incroyable texte qui s'appelle comme ça, « Les feux ». De Marguerite Yourcenar, qu'est-ce que vous avez, vous, comme rapport avec les textes historiques, Lerdon, puisqu'on parlait du livre de James Cameron, qui est un récit, qui est un témoignage, qui n'est pas exactement un livre d'historien, voire pas du tout. D'une part, qu'est-ce que vous avez lu pour nourrir votre écriture et qu'est-ce que vous avez comme façon de faire? Est-ce que vous aussi, vous faites tout cramer?
Eh bien, vous saviez que Marguerite Yourcenar, c'est une grande écrivain pour moi. C'est une
Alors moi, non, mais peut-être Romain de Bec-de-Lièvre qui a cherché les archives.
Okay, d'accord. Parce que là, je trouve ça... Non, les mémoires d'Adrienne,
Il y a quelques hasards complètement heureux et magiques qui arrivent dans cette émission et le reste n'est que du travail. Là,
d'accord, du travail. Oui, non, c'est super. En fait, j'ai relu les mémoires d'Adrienne pendant que j'écrivais ces quatre romans, en fait. Et je voyage avec, je l'ai dans ma valise. Mais bon, pour moi, oui, je ne suis pas historien, mais j'ai fait un degré d'histoire à l'université. Et c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. L'histoire des livres, l'histoire qui sort des bouches des gens comme ma grand-mère. Et si je viens de passer 3 semaines avec quelqu'un assez âgé, et il n'y avait que de l'histoire qui sortait de sa bouche. Mais c'est l'histoire qui est tout tourbillonnée par les émotions, les problèmes de mémoire, de souvenirs et tout ça. Mais je trouve ça très, très intéressant. Mais quand j'écris un de ces livres, je lis beaucoup. Donc, pour ce livre, La route de nuit, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur d'événements, les livres des historiens américains, bien sûr, comme j'ai dit, le livre de James Cameron, mais aussi de l'histoire en général des États-Unis et l'histoire de race que j'avais fait pour Les bonnes gens et Neverland. Donc, il y avait beaucoup de lectures et puis il y avait beaucoup de visites. Il fallait aller à Marion, Indiana, à plusieurs fois, comme je disais, c'était à 1 heure, même moins, de la ferme familiale. Donc chaque fois que je suis rentré avec ma jeune fille, je laissais ma fille à la maison avec ma sœur, et puis je suis allé à Marion, Indiana. Et c'est très intéressant. C'est une ville où il n'y a aucune trace de l'événement qui a marqué la culture américaine et la mémoire américaine. Il n'y a pas de petite plaque dans la ville, au centre-ville, entre rien, sauf à la bibliothèque centrale, il y a un archive où on peut trouver des articles de journaux de l'époque. Et c'est pas la ville qui a fait ça, c'est une femme qui s'est intéressée il y a 30 ans, qui a tout ramassé. Et puis il y a l'endroit où on gardait les jeunes gens avant le lynchage. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas une prison, c'est quelque chose où on garde les gens. Ça, bon, une prison. La prison de Marion, Indiana. Le bâtiment est encore là. C'est un grand bâtiment, c'est une sorte de forteresse. C'est assez improbable. Pendant les années 80, on l'a changé en appartement. Et on a laissé plein de traces de la prison. Donc on trouve les bars c'est vraiment un endroit hanté, bizarre. Et j'ai trouvé un moyen d'entrer, disons. Et c'était vraiment incroyable, c'était comme si c'était hanté. Il y avait des petites traces de musique dans l'air, des bars, il fallait passer. Et c'était... Bon, c'était... On menait ses vies, mais il y avait aussi les traces de cette histoire. Et donc, pour moi, quand j'écrivais Neverhome, je visitais des sites de bataille. Il faut que mon corps soit dans ces endroits. Donc, il y a la lecture, et puis il y a l'expérience, et puis il y a l'écriture et les voix qui raconte et que je suis.
Est-ce que le fait que cet endroit-là ou ces endroits-là se situent à moins d'une heure de la ferme familiale ont joué dans votre intérêt, ou après ça se transforme, j'imagine, jusqu'à probablement une obsession, enfin une manière de faire rentrer tout ça en vous, Laird Hunt, au-delà du fait que c'est un fait marquant de l'histoire des États-Unis, ce lynchage?
Non, cet aspect personnel, c'est très important, ça a toujours été important. Ce coin qu'on connaît pas très bien, on connaît pas du tout l'Indiana en fait dans le monde. Même dans les États-Unis, c'est pas un état très connu. James Dean est venu de Marion, Indiana, mais il y a eu quelques célébrités, mais à part ça, on connaît pas Indiana. C'est pas que je veux régler les comptes ou quelque chose comme ça, c'est comme une obsession, je dirais.
Oui, parce que je relis ça à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est... Finalement, faire de l'histoire, c'est aussi comprendre que pendant qu'il se passe le lynchage, à une heure ou à une demi-heure ou à 45 minutes ou à un kilomètre, il se passe plein d'autres choses. Et en fait, c'est aussi ça un paysage. C'est la complexité des vies qui ont eu lieu en même temps qu'un acte horrible.
C'est comme ces grandes peintures de je ne sais pas, Hieronymus Bosch ou Bruegel, où il y a tellement de gens, il y a quelque chose d'affreux qui se passe dans un petit coin de cette immense peinture, et puis il y a toute la vie autour. Et c'est un peu ça qui m'intéresse dans ces livres, oui. Justement, ma grand-mère, en 1930, était une jeune femme à une heure. Elle était dans la ferme en 1930. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette nuit là? Ça, c'est notre histoire racontée, peut-être un jour.
Les gars nous foudroyèrent du regard, mais nous suivirent quand même dans l'église. En roulant, depuis mon coin de siège, je m'étais préparé pour le bazar à Marvel, pour ce que j'allais voir et ce que ça me ferait. Et surtout ce que j'allais apprendre. Alors quand on passa la porte de l'église, le spectacle qu'on y découvrit me parut carrément étrange. Comme avec ses bloodhounds ou les glapissements de Bud, il me parut si délirant que j'eus du mal à en croire mes yeux. D'abord, on avait l'impression de la mare habituelle de têtes baissées à laquelle on pouvait s'attendre. Près de 100 têtes. Et pas une qui bougeait d'un poil ou disait un mot. Plutôt normal en somme, pas de quoi en faire un fromage. Mais là, j'entendis un des gars derrière moi prendre son souffle, et une seconde après, c'était mon tour. Je repris mon souffle parce que moi aussi je venais de voir ceci. L'église était pleine à craquer de soie de maïs et de fleurs de maïs, indifféremment. Peut-être même qu'il y avait des racines de maïs, en plus de Sally, et des barbes. Tous assis les uns à côté des autres, comme dans une énorme salade mélangée, dans un seul grand saladier. « Mais c'est quoi ce bordel ?» demandai-je à Sally. « Une veillée de prière. »« Mais pourquoi ?»« Contre les lynchages. » À ces mots, Sally me tapota le bras, puis alla s'asseoir, avec un petit salut de la tête, à côté d'une dame fleur de maïs en chapeau violet. Sous mes yeux, Sally serra la main de la dame, qui lui sourit et lui serra la main en retour. Parfois, le monde vous cloue le bec. Il se met à enfler tellement qu'il ne peut plus vous tenir dans les yeux. Chez Spitzer, il y avait un puits derrière la maison. Deux ou trois gosses m'y avaient descendu et laissé là, à pendouiller. Ils l'avaient fait parce que je le leur avais demandé. Un peu plus tôt, au souper, Mr. Spitzer avait dit qu'un jour, il avait vu la lune qui dormait au fond du puits, et je voulais voir ça. Je ne vis pas la lune entre les murs glacés et grumeleux qui suintaient tout autour de moi, mais ce qu'il y a de drôle, c'est que, juste avant que les autres m'aident à remonter, je crus l'entendre me chuchoter quelque chose. Je crus entendre le mot « surprise ». Mr. et Mrs. Spitzer nous attendaient avec des bâtons et je ne redescendis jamais dans le puits, auquel je ne pensais presque plus. Mais ce fut la première image qui me vint en voyant cette congrégation. Se retrouver pendu dans un tunnel avec de l'eau noire et profonde au fond. De l'eau et autre chose. Une chose qui attendait. Une chose enfouie qui n'avait pas encore de nom.
En écoutant cette lecture de Romain de Bec de Lièvre de votre texte « Laird Hunt » dans la traduction vers le français d'Anne-Laure Tissu, je pense au texte qu'interprète Billie Holiday et au « Strange Fruit ». Et je me dis en fait, Ottilie, qui est cette première femme qui nous parle dans votre roman, qui est blanche, qui prend la route, qui veut aller voir le lynchage, dans la manière dont elle pense là, dans la manière dont elle se parle elle-même, elle est suspendue. C'est elle le fruit qui pend dans le puits au-dessus de l'eau noire. Ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tout est plus compliqué que ce qu'on croit.
C'était bien d'écouter. C'est une belle traduction, je trouve. C'est plus joli que l'anglais.
C'est vrai, vous pensez ça?
Oui, c'est très très bien fait. Mais
c'est troublant ce passage quand même, parce qu'elle dit « Parfois le monde vous cloue le bec » et on sent que découvrant cette veillée de gens réunis pour prier contre les lynchages, il y a quelque chose qui en elle quand même se retourne.
Oui. Et il y a des incursions dans ce roman de l'impossible. Et cette nuit-là, cet événement, c'était impossible. Ça ne s'est pas passé. Il n'y avait pas de rassemblement de ces gens de différentes races comme ça, peut-être dans des petits groupes, mais ça c'est un peu une vision de l'avenir, quelque chose, c'est une espérance, une incursion de l'espérance. Et Ottilie est pas en mesure de dire que j'aimerais bien voir ça un jour. Pour elle, c'est quelque chose d'invraisemblable qui la choque et qui la perturbe. Mais le livre est comme ça.
Mais sa mémoire, si je peux me permettre, et son inconscient se le permettent. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle n'est pas en mesure de se dire « Finalement, je suis une humaine comme les jeunes hommes noirs qu'on va s'apprêter à lyncher et pendre. » Mais dans l'image qu'elle convoque, dans cette façon de dire « J'ai envie d'être pendue au-dessus du puits », c'est une manière presque inconsciente de dire « Mais en fait, moi aussi, je suis l'humain qu'on va lyncher. »
Oui, c'est intéressant.
En avant sur elle-même, peut-être, et sur l'Amérique.
Oui, c'est un peu en regardant vers le passé qu'elle peut regarder vers l'avenir. C'est intéressant, j'aime bien ça.
C'est aussi une scène où il est question de prière, où il est question d'église, de rassemblement religieux. Est-ce que vous pourriez nous parler, Laird Hunt, de cette dimension-là dans le texte, de la manière dont les personnages se demandent est-ce que c'est bien ou mal d'aller voir un lynchage, est-ce qu'on accueille les anges ou est-ce qu'on accueille les diables? S'il y a des incursions de l'impossible, quelles sont les incursions du religieux?
Là, c'est très difficile. Ma grand-mère serait pas très contente parce qu'on allait à l'église tous les dimanches, mais dans ce roman, les églises, il y a cette incursion de l'impossible ou de l'espérance, de quelque chose qui pouvait pas se passer. Et puis, un peu plus tôt dans le roman, il y a une autre église. Et là, on n'est pas là pour prier, on est là pour manger, on est là pour bouffer du poisson frites. Et l'église va pas aider les gens cette nuit-là. Peut-être un jour, peut-être même la semaine prochaine, mais cette nuit-là, l'église aide pas ces gens-là. Et pas les gens dans le roman. Donc c'est pas à travers la religion. Et il y a plein de gens religieuses dans ce roman, comme il y a plein de gens religieux dans l'Indiana, dans ce coin des États-Unis, bien sûr, de nos jours aussi. Mais cette nuit-là, les événements dépassent ce qu'il peut offrir dans le maintenant, dans le tout de suite, la religion.
D'où vient alors la question du bien et du mal? D'où vient le doute qui parfois s'insinue à savoir est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est patriotique ce qu'on fait d'aller voir un lynchage?
Ben ça c'est les États-Unis, c'est toujours ou bien un ou bien l'autre, c'est ça un peu le procédé, c'est très fondamental dans la pensée américaine, ça date des premiers jours en fait, le roman sur les sorcières, c'est un peu une investigation de cette façon de voir le mal et le bien Et pour moi, c'est toujours un grand mélange.
Oui, parce que là, on l'entend dans ce texte-là, tout est tressé, en fait. Vraiment, il y a vraiment un maillage très serré entre ce qu'elle est en train d'observer, le souvenir, la manière dont la mémoire travaille son propre souvenir. Mm-hmm. On est à l'inverse de la partition du bien et du mal.
Ah oui.
Par ailleurs.
Moi, je vois pas le monde comme ça. C'est pas possible. J'aimerais bien, mais ça serait beaucoup plus facile. Mais on n'est pas fait comme ça, j'ai l'impression. Et bon, c'est avec ces deux femmes, je voulais à tout prix que ils prennent la route cette nuit. Ils vont dans des directions opposées, mais il fallait qu'ils se heurtent, qu'ils se croisent, qu'ils se touchent. Pas pour aller marcher ensemble, bras en bras, mais juste pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui marche cette nuit. Quelqu'un d'autre qui a une vie derrière elle et une vie devant elle.
Y a-t-il un roman que vous préférez aux autres ?
Oui, c'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite, La Brute et la Fureur.
The Sound et the Fury, Le Bruit et la Fureur. Oui, bien entendu.
Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain, simplement, traite le sujet de la meilleure façon qu'il s'est trouvé.
Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers?
C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. Je crois que l'écrivain ne peut pas se rendre compte de toutes ses qualités, toutes ses quantités, qui d'autres voient dans son œuvre. Si l'écrivain essaie de redéfinir pour lui-même ses qualités, ses motifs, il n'aurait pas le temps. S'il voulait aussi manger et dormir, d'écrire. Si l'artiste ne croyait pas dans l'homme et son avenir, il n'y aurait pas de raison d'être artiste.
Vous êtes William Faulkner, un écrivain né dans les États du Sud. Je ne puis donc éviter, pour terminer cet entretien, de vous demander ce que vous pensez de la question raciale aux États-Unis et du problème noir.
Tout peuple doit faire face, enfin, au choix. Être libre ou être esclave. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pouvait choisir en plus de chaque. Il ne s'agit plus de degrés de liberté ou d'esclavage. Il n'existe dans certaines parties du monde une hiérarchie de liberté comme un système de caste militaire. Là, le choix est plus difficile et doit être fait un prix de peine, même de violence.
Au prix de peine et de violence.
Mais nous du sud des États-Unis, nous faisons ce choix. Et ça sera le bon.
Il est très optimiste, William Faulkner, en 1955. Il parle en français, il lit probablement son texte en français.
Oui, c'est
clair. Il est très incroyablement traduit par la personne qui l'interview. On est donc archive RTF, il y a près de 65 ans, Laird Hunt. Vous disiez, il y avait dans des bibliothèques que j'ai fréquentées, enfants et adolescents, des livres d'Hemingway, des livres de Faulkner que j'ai aimé beaucoup, avant de savoir que c'était des humains qui les écrivaient vraiment. Comment vous entendez la dernière phrase de cette archive? Le choix, on fait un choix, et probablement celui que fait l'Amérique sera le bon.
Eh bien, ça me rend un peu triste, parce que bon, il y avait ce moment où on sentait vraiment presque tous la moitié du pays qu'il y avait de l'espoir ces 8 années du président Obama. Mais puis ça a changé depuis, et puis on se retrouve dans une situation assez pitoyable où des problèmes raciaux sont à la une presque tous les jours, presque tous les deux jours, les problèmes de la misogynie, ça continue, c'est Donc, je ne suis pas aussi optimiste que ce grand maître, William Faulkner. Mais on verra dans 2 ans, 1 an et demi. Peut-être ça va rechanger, mais le problème, c'est ce qui est en dessous des figures en tête. Et on a vraiment compris avec Donald Trump que ce qui est en dessous fait peur. On pourrait être en 1930 avec les propos qu'on lance avec ces histoires à Charlottesburg il y a 2 ans, avec les néo-nazis qui se promènent dans les rues en plein jour. Ça, c'est les États-Unis de nos jours. Donc, ça fait un peu peur. Donc, j'aimerais bien que...
Je fais une petite parenthèse avant de revenir à Faulkner, mais les États-Unis de nos jours, c'est aussi les gens à qui vous enseignez la littérature à Brown University. Et j'imagine que ce ne sont pas des néo-nazis ni des néo-fascistes, et qu'il y a des jeunes gens qui apprennent la littérature et qui ont envie d'une Amérique progressiste.
Ah oui, oui. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus optimistes que moi. Moi, je nage dans l'histoire assez sombre et compliquée depuis quelques années, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour dire que oui, tout va aller très très bien. Mais c'est sûr avec Hillary Clinton, il y avait 3 millions de gens de plus qui ont voté pour elle que pour Trump, donc ça me rassure un peu. Mais c'est vrai que oui, parfois on regarde la télé ou on lit le journal et c'est un peu écœurant, disons.
Pour revenir à Faulkner, évidemment, difficile de ne pas penser à la route que prend son personnage incroyable dans Lumière d'août et la fin du roman où elle est sur un chariot brinque-ballon et on lui dit la ville où elle va arriver et elle fait « Ah ouais, ça c'est dingue, tout. J'ai l'impression que je suis partie il n'y a pas si longtemps, je suis déjà rendue. Qu'est-ce qu'on peut faire comme route quand même en si peu de temps ?» Ou encore « As I lay down, tandis que j'agonise » et encore un chariot, mais cette fois qui transporte le cercueil de la mère et qui galère à passer un torrent. C'est des scènes incroyables de William Faulkner qui sont là en fait quand même quand on lit Route de nuit, Laird Hunt. Est-ce que c'est nous et nos lectures ou est-ce que c'est vous et vos amours de lecteurs?
Lumière d'août, c'est mon roman préféré de Faulkner. C'est pour moi le plus grand. Et c'est vrai que je garde l'image en tête de ce voyage, de ce personnage principal si particulier, si intéressant. Et puis, bon, c'est vrai que dans tous ces romans où il y a de l'histoire, où il y a des femmes, les femmes sont toujours en train de marcher, sont toujours en train de voyager, sont toujours en train d'aller vers l'avenir. Et peut-être ça, c'est assez optimiste, finalement.
J'étais en route pour chez moi, et c'est là que je serais allé, je le crois. J'entendais l'appel de mon oreiller, je rêvais de prendre un bain. De mon côté du lit, je rêvais que Dale soit allongé à côté de moi. Peu importe ce qu'il avait pu dire ou à qui, est déjà bien lancé dans ses ronflements. Dale et notre propriété me tiendraient lieu de Marvel. Une fleur de maïs qui sourit, un pistolet à la main, pouvait remplacer Marvel. Une vieille avec des cornichons magiques, un dîner de poisson-chat, une brave mule, un porc endormi, l'époque de l'abattage. Ma mère, partie pour Gary. Danser sur le gravier dans le noir, je pressais le pas. En frissonnant malgré la chaleur aussi, me frottais-je les bras. J'allais cesser de frissonner, je connaissais des raccourcis, je saurais rentrer en moins de rien. J'aurais été chez nous. Mais je n'avais pas fait 30 mètres sur le chemin de ma retraite que j'entendis un moteur. j'aperçus des phares, je tendis la main. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir Candy Perkins. Elle était allée à Marvel, avait assisté à tout, puis emprunté une voiture pour aller se refaire une beauté avant de repartir s'amuser. À présent, elle y retournait. T'es dans un sale état, Ottilie. Elle est grimpe, fit-elle. J'ouvris la portière et grimpais avec ce que je crus être un certain élan. Sourcils haussés, sourire narquois aux lèvres. Tentais de me rappeler l'une des remarques que j'avais l'intention de lui faire quand je la reverrais, sur les anciens petits copains et les concours de beauté. Mais avant d'avoir pu sortir le moindre mot, j'avais la tête sur son épaule et je pleurnichais comme Bud. Je pleurais. Je sanglotais. Si longtemps et si fort qu'elle coupa le moteur. « Mais Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-elle. Pendant un moment, toutefois, même après qu'elle eut remis la voiture en marche pour nous conduire vers Marvel, je ne pus rien faire d'autre que secouer la tête.
Valentin Rémy qui fait la dernière lecture de la saison, ou presque, Laird Hunt. Un extrait de votre texte « Route de nuit » publié aux éditions Actes Sud et traduit par Anne-Laure Tissu. Quel est le statut de ce texte-là, qui est à mon sens l'espèce de texte du milieu, quoi, la bascule dans votre tête? J'arrêtais pas de me dire, est-ce que ça arrive vraiment?
C'est une bonne question. Et j'ai pas la réponse, en fait. Je ne sais pas.
J'arrivais pas à savoir si Ottilie, elle rêve cette rencontre. Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que ça arrive vraiment?
Oui, on peut se poser la question parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a l'improbable et l'impossible qui surgit. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, est les sanglots d'Ottilie. Elle pleure parce qu'elle comprend, elle commence à comprendre ce qu'elle a fait cette nuit. C'est le tout début de la compréhension, me semble-t-il. Mais entre-temps, je l'espère au moins, on a rencontré son humanité, sa complexité d'être humain. Et donc, même si on comprend pas, on a quand même quelques repères pour réfléchir à ce qu'elle a fait.
Un grand merci à vous, Laird Hunt. Route de nuit donc est paru aux éditions Actes Sud. Vous restez un peu en France?
Oui, je pars à Toulouse demain matin.
Vous profitez un peu de la canicule, comme ça.
C'est ça.
Le petit cadeau de bienvenue. Merci à vous.
Merci beaucoup.
À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Valentin Rémy, Marianne Chassor, Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos qui mettent à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal de 22h sur France Culture et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent. Vite, 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 on s'abonne au podcast parce que c'est l'été. Après, il n'y aura plus d'émission à 21h pendant au moins deux mois. And I ain't coming back no more. My mother told me, JB, you better watch your step. My mother sat down and told me, JB, you better watch your step. One day you may fall down, and you gon' need somebody's help. Sometime I wonder, would any world gon' become on me? Sometimes I just sit and wonder, what in the world gonna become of me? Will I be living here on earth, or will I be living?
misery.